vous êtes bien sur FM+, c'est Robert qui vous parle et c'est l'émission Les Livres ont la parole. Alors aujourd'hui, émission très particulière puisqu'elle est consacrée à une conférence que j'ai organisée, enfin que j'ai animée autour du dernier livre de Jean-Christophe Victor qui s'appelle, donc c'est les Dessous des cartes et sur l'Asie. Cette conférence a été animée le 4 novembre 2016 et malheureusement, vous l'avez peut-être appris, eh bien monsieur Jean-Christophe Victor est décédé le 28 décembre à Montpellier. Donc je ne dis pas que c'est la dernière émission ou le dernier enregistrement qui est réalisé Jean-Christophe Victor, mais c'est peut-être le dernier débat. Et c'est une vraie émotion que d'avoir appris le décès de ce monsieur. C'était pas la première fois que je l'interviewais. J'avais animé déjà deux émissions et j'avais déjà fait un petit film avec lui. C'était quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui était simple, qui était absolument agréable. Et le repas que nous avions fait après, eh bien, j'en garde un très bon souvenir. Donc voici le dessous des cartes consacré à l'Asie. C'est du direct, c'est du live, donc vous entendrez un peu des bruits, des toussottements du public. Moi qui parle pas forcément toujours bien, mais c'est Jean-Christophe Victor et c'est une vraie émotion que d'écouter encore ce monsieur. Alors je ne sais pas si pour commencer il faut vraiment présenter Jean-Christophe Victor, je ne sais pas. Hein. Non, peut-être pas la peine. La première chose à dire c'est que vous êtes le fils de votre père, n'est-ce pas ?
Ça arrive à tout le monde.
Et j'ai vu quelque part que vous avez commis un livre avec votre père et pourtant votre père à ce moment-là n'était plus de ce monde. Alors comment avez-vous fait ?
Oui, ce sont des relations privilégiées.
Oui.
On avait écrit un livre ensemble sur l'Antarctique dans les années 90-92, et il est mort en 95. Et au moment de l'année polaire 2007, il y a l'éditeur qui m'a dit « Est-ce que vous ne voudriez pas reprendre ce livre, le réactualiser ?»« Est-ce que vous ne voudriez pas reprendre le livre, le réactualiser ?» Et j'en ai profité pour effectivement le modifier pas mal et changer de titre, c'est-à-dire avant c'était Planète Antarctique et je l'ai appelé Adieu l'Antarctique.
Voilà, c'est ça.
Et dans le dernier chapitre, il y a l'explication pourquoi j'ai nommé ça Adieu l'Antarctique. Voilà.
D'accord, tout est clair maintenant. Donc vous êtes depuis 1990, donc c'est vous qui animez donc le dessous des cartes. Alors d'abord première chose, combien avez-vous fait d'émissions et comment ça vous est venu cette idée ?
Alors l'essentiel de mon travail, avant j'étais au ministère des Affaires étrangères et en 1991 j'ai fondé avec deux trois chercheurs. Un laboratoire de recherche en relations internationales qui est une boîte privée. Mais l'idée, c'était de faire de l'analyse politique ou géopolitique tout à fait indépendante. Et ce labo, j'y travaille toujours aujourd'hui. Donc c'est l'essentiel de mon activité tout de même, c'est de travailler avec ce groupe d'une dizaine de chercheurs qui est en Île-de-France. Et pour faire des recherches, soit des programmes qu'on lance nous-mêmes, et je vous parlerai de l'un d'eux d'ailleurs, soit on répond à des demandes d'entreprise pour des séminaires de formation. Et au moment de la naissance de la chaîne franco-allemande, par relation, ils sont venus me voir en me disant « Est-ce que vous n'avez pas réfléchi ? On ne voudrait pas s'adresser à des journalistes, on voudrait s'adresser à des chercheurs ?» pour ouvrir une fenêtre sur le monde. Est-ce que vous avez réfléchi ? Et j'ai pondu un projet. Je me souviens, à l'époque, j'étais à Java, en Indonésie. Et j'ai pondu un projet qui était exactement celui-là. C'est-à-dire une émission d'expérience. Moi, j'étais, ça va mieux, un chercheur frustré. C'est-à-dire, je trouvais que la télévision... plus que la radio, ne traduisait pas la réalité du monde. Et je pensais qu'il fallait avoir des paramètres, des lunettes différentes. Et ces lunettes différentes, c'était la géographie, l'histoire, la re-hiérarchisation des choses, et ne pas confondre l'urgence et l'importance. Hein, ne pas confondre les deux. Et donc j'ai fait un projet... qui était effectivement de s'appuyer uniquement sur des cartes pour expliquer ceci, cela. Je ne voulais pas apparaître, et donc mon idée était d'écrire, mais pas de présenter. Et puis, oui, mais ça ne marche plus.
J'ai l'impression que ça marche.
Hein, c'est le micro qui ne marche pas.
Non, parlez pas de...
Et voilà, maintenant il marche. Et donc ça a été accepté assez facilement. On a beaucoup travaillé parce que tout le monde disait, vous savez, une émission de télé avec uniquement des cartes de géographie, ça va être copieusement ennuyeux et ça va pas marcher. Mais Arte a été très très persévérant et donc c'est né comme ça, si vous voulez.
Alors, depuis que votre émission existe, 90, vous avez une idée du nombre d'émissions différentes que vous
non.
avez fait ?
Non. C'est assez nul, le Larsen. On ne peut pas le modifier. Il y a un écho qui est un petit peu comme si on était en 1970. Quoi.
Elle ne va pas être contente, la dame, là-bas.
Ça marche pas, moi. Non, j'ai pas calculé, mais il y en a 500, 600, 700.
Ah oui, d'accord. Donc moi, par contre, si j'ai bien calculé, vous allez me dire si je trompe, moi j'ai noté que c'est le quatrième livre associé exactement à l'émission.
Oui, ça c'est exact. Il y a eu 2005, 2007, itinéraire géopolitique, l'Asie, et si vous en oubliez un qui est important, c'est l'Atlas pour les petits.
Ah oui, alors c'est 5, alors.
L'Atlas junior que j'ai fait avec deux amis profs de collège-lycée, qui s'appelle Atlas Junior, qui est sorti en 2011, je crois, et qui a bien marché, et on va faire d'ailleurs un tome 2, et... ouais, enfin bon, il y en a 4-5, exact.
Et alors, en général, les 4 ou 5 livres que vous avez faits, vous reprenez ce que vous avez eu fait déjà dans une émission, ou c'est quelque chose de tout à fait nouveau, chaque fois ?
Les deux. C'est-à-dire que quand... on produit quand même un texte par semaine, hein, une analyse, soit sur des thématiques horizontales, transversales, soit sur des monographies pays. Donc, à la fin de l'année, on en a quand même 45. Et donc, il y a beaucoup de matière, plus la recherche qui précède l'écriture et qui n'est pas utilisée.
Bien sûr.
Parce qu'on a droit à 10 000 signes. Et 10 000 signes, c'est très, très peu. Hein, c'est 3 pages. 10 minutes, ça fait 10 000 signes. Et je n'ai pas droit à plus ni à moins. On a du capital, si vous voulez. Et donc, on peut décider à ce moment-là de regrouper selon des thématiques, je me répète, horizontales ou régionales. C'est ce qu'on a fait sur l'Asie. Mais l'écriture qui est utilisée pour les missions, donc orale, n'est pas exportable. Pour rebasculer vers l'écrit. Deuxièmement, les cartes qui sont produites à la palette numérique pour Arte et pour l'émission et qui sont rythmées selon un rythme assez précis, hein, ne sont pas exportables non plus vers le papier.
Ah, d'accord.
Donc on recommande des cartes, et les cartes sur l'Asie qui sont là, par exemple, ont été, il y en a 120, je crois. Donc,
peu plus, oui.
Quoi ?
Un peu plus, il me semble.
Oui, autour de 130. Ont été commandés à un cartographe, vous voyez.
Et donc, un géomaticien, allez.
Géomaticien, oui, mais il est mieux qu'un géomaticien. Parce qu'il a de l'imagination, parce qu'il a de la fantaisie. Il est capable de sortir des codes cartographiques. Moi, je trouve important de sortir des codes cartographiques pour diverses raisons d'ailleurs, et l'utilisation de la colorimétrie par exemple qu'il pratique avec grand talent permet de voir des choses qu'on ne voit pas toujours. Donc pour vous répondre, oui, il y a un capital intellectuel, mais non, le bouquin n'est pas une copie des émissions.
D'accord. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que faire une carte, ce n'est pas facile du tout. Il y a des tas de théories mathématiques associées derrière. Vous l'avez bien repris en début de livre, et vous expliquez les 4 ou 5, je ne sais plus combien il y en a, les 4 ou 5 façons de réaliser une carte avec chaque fois les approximations qu'il y a. Donc c'est un vrai problème de faire des cartes. Il y en a quelques-unes, il faut le dire, je vous en parlais tout à l'heure, il y en a quelques-unes que je trouve un peu lourdes, mais c'est un énorme travail. Alors est-ce qu'il y a une grosse discussion entre vous et votre concepteur de cartes ?
Oui, mais ça fait partie du plaisir et de l'intérêt. Et oui, il y a une grosse discussion parce qu'on parle. D'abord, on trouve une thématique de carte. Hein, ça peut être la pollution en Chine, ça peut être le passage du Nord-Ouest dans l'Arctique et le détroit de Bering. Ensuite, on décide de l'échelle, c'est-à-dire on va d'où à où, nord, sud, est, ouest. Ensuite, on met quelles données. Ensuite, on décide de la couleur.
La palette des couleurs, oui.
La palette des couleurs. Ensuite, moi, je demande au cartographe, en gros, étonne-moi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu apportes. Et donc, oui, il y a de la discussion. Alors, donc, il fait un premier jus sur lequel on est d'accord à 80% du temps, ou sinon on lui dit, là tu vois, je trouve que soit c'est pas lisible, soit ton échelle est trop petite, soit j'aime pas tes flux. C'est très difficile de représenter les flux financiers, les flux de population. On n'a que des traits, on n'a que des flèches. Et je trouve que les cartographes sont assez peu porteurs d'initiatives.
D'imagination, oui.
D'imagination formelle, vous voyez. Et donc oui, on a des discussions, mais franchement, ça fait partie du plaisir, parce que lui, moi, je suis pas cartographe, je suis même pas géographe. C'est-à-dire que lui, il est les deux, parce qu'on peut avoir des cartographes qui ne sont pas géographes. Lui, il est les deux, et donc c'est plus intéressant, et donc il fait des propositions.
D'accord. Et alors, quand on lit le livre, on va rentrer dans les détails après, mais quand on lit le livre, on voit bien qu'une carte, en gros, une carte avec des fois des petites annexes à côté, c'est 3-4 pages dans le livre. Il y a ce rythme-là. Une carte, le texte associé, en général, c'est 2-3 pages, guère plus. Et après, vous passez à une autre carte, des choses différentes.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de proportionnalité entre la carte et le texte. Et d'abord, on est libre, tout de même, sauf l'éditeur qui nous dit, tu dépasses pas 200 pages. Et puis, il y a le nombre de signes par double page. Bon, ça sont des règles, si vous voulez, d'édition d'abord, d'imprimerie ensuite. Mais sinon, on est tout à fait libre. J'ajoute, pour bien répondre à votre question, que la carte est un article en soi.
Absolument.
C'est un article en soi. On ne passe pas, en principe, on ne passe pas 10 secondes dessus. En principe, on passe 2 minutes, 4 minutes dessus. Vous voyez ? Et puis, il y a à côté le texte. Alors, il y a ce qu'on appelle le principe du double texte. C'est-à-dire, vous avez un texte, prenons le cas, par exemple, la croissance assez forte que connaît le Vietnam. Okay, donc, on a un texte de plus de 20 000 signes qui explique pourquoi, comment, quels avantages, inconvénients, etc. Dans lequel on a 2 ou 3 cartes sur le Vietnam. Et puis, vous avez le sous-texte qui est le commentaire exact de la carte. C'est-à-dire, en gros, on prend les gens par la main et on leur dit « Voilà ce qu'il faut repérer sur la carte. » Et donc, on peut avoir une triple lecture du texte, qui est un fil, du commentaire et de la carte.
Thank you.
Alors maintenant, si on prend un peu votre livre, alors d'abord, pourquoi l'Asie? Alors tout le monde, depuis 20 ans, on nous dit le centre de gravité du monde est passé en Asie, il est plus en Europe, il est plus aux États-Unis. Est-ce que quelque part aussi, c'est une espèce de décolonisation que vous avez voulu nous faire? Bon, quels sont les différents aspects de ce livre?
Oui, alors il y a plusieurs choses. C'est vrai que depuis une quinzaine d'années, on est quoi, en 2016, oui, enfin à la fin des années 90, on a un phénomène tout à fait marquant. On a des taux de croissance européens qui tournent entre 1 et 2% au mieux, des taux de croissance américains un tout petit peu mieux, à peine, et on a des taux de croissance en Asie au-delà de 4%. Et ça fait longtemps. Hein, ça fait quasiment 20 ans, en tout cas, ça fait facile 15 ans. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi l'Asie, c'est-à-dire ce que j'écris dans l'introduction, l'introduction, c'est quel est le critère, c'est quoi l'Asie, c'est où l'Asie? Parce que je me méfie des définitions géographiques. Mmh. Hein.
Vous n'êtes pas géographe, alors vous vous méfiez, c'est normal.
C'est ça, oui. Oui, non, mais je me méfie de la sémantique, si vous voulez, je me méfie des termes, parce qu'il faut bien savoir de quoi on parle. C'est la moindre des choses qu'il faut dire aux étudiants, vous le savez, vous êtes prof. Et donc, si on parle de l'Asie, qui est vraiment la région du monde que je connais le mieux, est-ce qu'on parle de géographie? Alors, à ce moment-là, on la définit d'où à où? Est-ce qu'on parle d'une civilisation asiatique? Pas du tout. Il n'y a pas de civilisation asiatique. Il y a des civilisations asiatiques. Confucéennes, brahmaniques, civilisation des archipels, Asie du Sud-Est, Asie du Nord. Est-ce qu'on parle d'une zone qui est plus peuplée que le reste du monde, avec une dynamique démographique plus nette? C'est pas un critère d'analyse, ça. Et donc, je me suis dit, on va prendre les taux de croissance. Le paramètre qui donne de la cohérence à la méthode de travail, c'est les taux de croissance. Et les taux de croissance au-delà de 4%, j'ai déjà dit, en gros, ils commencent après la frontière afghano-pakistanaise, ils s'arrêtent à l'est des Philippines, et idem à partir du sud de l'île de Java jusqu'à la Mongolie. Et donc, vous avez là le carré. Et là-dedans, vous avez des taux de croissance qui vont entre 4% et 8%, 9%, 10%, selon les années. C'est ça le paramètre que j'ai pris. Et à partir de là, vous avez un certain nombre de conséquences de ces taux de croissance élevés depuis longtemps, en différentiel vis-à-vis des pays de l'OCDE, c'est-à-dire États-Unis et l'Europe où nous vivons, qui crée une rétractation de la pauvreté. C'est quand même la première fois quasiment dans l'histoire. C'est-à-dire que vous avez une progression de plus en plus lente de la population mondiale. Elle est de plus en plus lente, hein. Mais vous avez une réduction de la pauvreté depuis 2006-2007. Et puis vous avez la création d'une nouvelle classe moyenne. Cette classe moyenne, c'est-à-dire un nouveau pouvoir d'achat qui est lié au taux de croissance dont je vous parlais et qui engendre une véritable révolution. La nouvelle classe moyenne, les nouvelles classes moyennes. Et la nouvelle révolution, c'est un nouveau pouvoir d'achat qui est immédiatement converti en consommation, ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose, donc en acquisition de biens matériels, modification des comportements touristiques, modification des comportements alimentaires, l'énorme importation du bœuf, par exemple, hein, sauf en Inde où on ne mange pas le bœuf, mais l'Inde se met à exporter ses vaches sacrées, qui sont abattues dans le pays musulman à côté, Bangladesh, et qui sont revendues en trafic ou pas trafic au Vietnam et en Chine. Et donc vous avez, avec cette classe moyenne, une modification des habitudes que l'on ne perçoit pas toujours, nous, dans notre petite Europe pépère et vieillissante. Et vieillissante. Vous avez aussi une crise sur la fourniture du diamant. Pourquoi? Parce que les Chinois, qui sont une nouvelle classe moyenne et qui s'enrichissent, et tant mieux de l'effet de rattrapage, ils changent leur comportement. Et quand un Chinois se marie il offre bague en jade. Non, non, maintenant on est passé au diamant. Et alors, quand vous avez 150 millions de Chinois qui se marient chaque année, le chiffre, je dis n'importe quoi, ça fait une importation massive de diamants, si vous voulez. Et donc, de Beers, en Belgique, a une très forte tension sur la demande. Bon, tout ceci change radicalement. Et je pensais que c'était intéressant de, d'abord d'avoir une méthode rigoureuse en disant, voilà, voilà ce que je prends comme paramètre d'entrée. Et ensuite, d'étudier ces phénomènes. On a des analyses là, pays par pays, mais aussi on a la démographie, l'économie, les questions monétaires, les questions stratégiques, c'est-à-dire les tensions. On a des chapitres et l'environnement.
Voilà, et tout ça est structuré en trois gros chapitres de taille assez inégale. Hein, mais donc c'est le premier, c'est les visages. Ensuite, c'est l'Asie sous tension, et enfin c'est l'Asie en mouvement. Et ils sont tous, et dans chacun, vous montrez. Alors, il y a une étude globale, je dirais, de l'Asie en général, telle que vous voulez de la définir, mais aussi après, vous prenez un petit élément dans chaque pays, et là, on apprend des choses absolument extraordinaires. On se doutait qu'il y avait des choses, mais là, on est absolument. Moi, j'avoue que j'ai pris le livre un peu au hasard, je l'ai ouvert un peu au hasard, et ça fait une semaine que j'y tourne autour, et on apprend, chaque page, on apprend quelque chose qu'on oublie très vite, c'est malheureusement, mais on apprend des tas de choses.
Oui. Oui, bah, franchement, tant mieux, c'est quand même le but. Hein. C'est le but. Mais l'autre élément qui est important et que je décris dans l'introduction, c'est que j'adore cette région. Ça fait, j'avais fait Langzhou, j'avais fait Nihalco en chinois quand j'étais étudiant, donc au 19e siècle. Et
19e siècle, un peu au 20e quand même.
Oui, non, c'était milieu du 19e siècle quand j'étais étudiant. Et c'est une région du monde où je vais une ou deux fois par an depuis 30 ou 40 ans. Et je crois que c'est la région du monde que je connais le mieux, à partir de l'Iran. Hein, je connais à partir de l'Iran. Et tous les pays là qui sont décrits, j'ai été dans tous les pays. Soit pour séjourner, soit pour voyager, sauf la Mongolie. J'ai jamais été en Mongolie. Et donc, il y a une dimension affective. Vraiment une dimension affective. Je raconte à la fin, d'ailleurs, moi, quand je me pose à l'aéroport, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Et c'est tout à fait exact. Et je vis avec une femme, et je suis marié depuis longtemps avec une femme qui a été chef de mission en Birmanie, Myanmar, et pour qui aussi l'Asie est une dimension personnelle et familière extrêmement forte.
Il vaut mieux, parce que sinon, ça pourrait poser problème.
Oui, c'est quand même 13 heures de vol, et puis ça prend du temps, quoi. Et donc voilà, il y a aussi cette dimension de terrain, voilà, de terrain.
Alors, on apprend des tas de choses. Par exemple, moi, celui que j'ai trouvé le plus extraordinaire, c'est le Bhoutan. Alors, c'est un pays qu'on connaît pas beaucoup. J'avoue que j'en avais entendu parler, mais ça s'arrête là. Et pour moi, c'est vraiment, après avoir lu tout ce que vous nous dites sur le Bhoutan, c'est un mystère complet, ce pays, hein, je trouve. Alors, c'est pas le seul, certainement.
Non, mais ça veut dire quoi, mystère ?
Mais ça veut dire qu'on s'aperçoit qu'ils ont défini un indice de comment dire,
le BNB, le bonheur national brut.
Bon, sinon, c'est pas UBU, ça existe vraiment. Et on s'aperçoit que c'est dans ce pays aussi qu'il faut payer 200 euros dans ces péninsules-là, je me rappelle plus.
Ce sont deux mouvements assez intelligents. C'est-à-dire que c'est un pays qui a réfléchi, qui est tout petit, avec peu de population, qui fait partie des États à cheval sur la chaîne de l'Himalaya, qui est très beau, qui est très préservé, et qui s'est dit, soit on fait comme le Népal et on développe un tourisme de masse ou de semi-masse, et résultat, vous avez des camps de base dans la Napurna, dans l'Everest, dans le Manaslu, qui sont des tombeaux de déchets, quoi. Ce qui est d'une très très grande tristesse. C'est-à-dire qu'en fait, les alpinistes, ils ramènent pas leurs poubelles. Maintenant, ils y sont obligés. Hein. Mais je crois que ça ne date que de 3 ou 4 ans.
Et c'était donc le dernier livre, le dernier dessous des cartes de Monsieur Jean-Christophe Victor. Vous avez vu que la leçon n'était pas tout à fait extraordinaire, mais j'ai quand même voulu le passer. C'était la dernière fois que Monsieur Jean-Christophe Victor était avec nous. Et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie émotion quand j'ai écouté cet enregistrement, donc je ne pouvais pas ne pas le passer. Voilà. Je remercie Manu qui a fait beaucoup d'efforts pour rendre ce son audible. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.